BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous. En ce week-end d'Halloween, je vous propose une heure de plaisir et de modération avec un menu sans citrouille, l'appellation Côte du Vivarais, le succès des vins d'Iroulégui, le Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi, le magazine Vigneron, dont le deuxième numéro est en kiosque ce week-end, et bien sûr, toute l'actualité du vin, en compagnie de Corinne Lefort, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Nous sommes très bien installés, comme d'habitude, non pas dans les studios de BFM, mais chez Fauchon à Paris, au cœur de la capitale, place de la Madeleine. Avec vous, notamment, Philippe Forbach, on va le rappeler, vous êtes meilleur sommelier du monde, un commentaire sur l'année 1965.
65 ?
Oui.
Ah bah c'est pas terrible. Hein. C'est une des plus mauvaises années de l'histoire des vendanges. Wow. 63 et 65 se sont concentrés dans cette décennie-là pour vraiment faire des choses tout à fait modestes parce que les conditions climatiques étaient assez catastrophiques.
Modestes pour pas dire lamentables.
À Bordeaux, il y a beaucoup de châteaux qui n'ont d'ailleurs pas étiqueté leur vin. Ça a été vendu en vrac au négoce. En Bourgogne, c'est considéré comme une petite année. Ça a été bu depuis belle lurette. Il a tellement plu que le petit cours d'eau qu'on appelle le Meusin, qui coule en général paisible...
Il est devenu le grand Meusin, non?
Oui, quasiment. En tout cas, il a fait parler de lui, hein, et à plusieurs heures, puisqu'il a débordé, il envahit toutes les rues de Nuit-Saint-Jean cette année-là. Au moment des vendanges, pour autant vous dire qu'il y avait beaucoup plus d'eau.
Mais c'est toujours ce que vous racontez, Philippe Forbach. David Cobold, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre en 1965?
Je venais de quitter l'école, donc pour moi, c'était une grande année, parce que j'étais enfin libéré.
Corinne Lefort?
Eh bien, Johnny faisait toujours l'actualité.
Johnny?
Ouais. Eh oui, il s'est marié en 65.
Déjà avec des problèmes de docteur à l'époque, non?
Bah, je
c'était
sais
numéro
pas.
Numéro 1, 2, 3, 4.
C'était la première, c'était Sylvie Vartan.
Ah oui, d'accord. Et alors, Philippe Forbach, quelques.
Il a tellement plu que les gens se sont réfugiés sous la couette.
Exactement. Alors, qui est né en 1965?
Côté sport, côté chanson, acteur, etc. Il y a Pascal Obispo, Christina Reali, Brooke Shields, Emmanuel Béart, Brad Pitt, s'il vous plaît, Stéphanie de Monaco ou encore notre ministre du budget, François Baroin.
Est-ce que vous avez Laurent Carreda dans votre liste de people nés en 1965?
Oui, juste derrière une orange.
Ben voilà, c'est le premier invité, le président d'Almeris. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors vous êtes né un 30 octobre à Clermont, donc c'est le week-end de votre anniversaire. Heureux de le célébrer en compagnie des auditeurs de BFM.
Avec un très grand plaisir.
Alors vous avez réalisé donc des études supérieures d'économie et de droit et à 23 ans vous allez créer votre première entreprise. Vous étiez étudiant dans quel domaine ?
Conseil juridique et financier.
Et en 2000, donc vous allez continuer, alors juste avant de partir en Italie pour faire votre coopération, vous avez eu le temps de goûter quelques bons vins italiens à cette époque ou pas ?
À l'époque, quelques-uns, mais c'était à Milan, c'était pas encore la grande période des vins italiens.
Les vins italiens, Philippe Forbach, il faut en parler de temps en temps, parce qu'on trouve des vins excellents.
Non seulement il faut en parler, mais nous en parlons de temps en temps. David nous a fait l'éloge de certains grands cépages, y compris des cépages assez rares du nord de l'Italie. J'ai eu le plaisir, moi, de vous parler il y a quelques temps du Piémont, et notamment de Barolo Barbaresco, et c'est incroyable vignoble à côté d'Alba. Dans la Lombardie, qui vous a vu travailler pendant un certain temps, il y a de jolis vins. Il y a notamment des vins effervescents dans le secteur de Franciacorta, dont certains peuvent rivaliser avec ce qu'on connaît aussi chez nous du côté de la Champagne.
Allez, on revient en France, Laurent Carreda. Donc, vous avez créé Almeris en 2000. Un mot peut-être sur le capital de cette société. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Hein.
Création juin 2000, seul, et puis... Septembre 2000, France Télécom qui nous a rejoint et pris 64% du capital.
Alors aujourd'hui, c'est une belle PME, hein, 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous rappelez donc le métier de votre entreprise?
Nous avons débuté en 2000 dans le secteur de la santé, traitement des données de santé. L'idée initiale, c'était de se positionner face à la numérisation des données, de l'information, et donc la possibilité de les traiter de façon industrielle. Cette révolution était pour nous de nature à développer un champ d'activité considérable, assez universel, en surfant sur deux éléments sous-jacents extrêmement forts qui sont la possibilité de gagner du temps, qui est un des moteurs de l'économie, et l'amélioration du niveau de confiance, qui est un des deuxièmes moteurs. Et à partir du moment où on est capable de traiter une information dans laquelle on a confiance et de la traiter rapidement, voire en temps réel, on a un champ de possibilités en termes de services qui est considérable.
Et donc vos clients, quelques noms peut-être avouables, bien sûr.
Bien sûr, dans les clients, on a des banquiers, des assureurs, de grandes entreprises. Des hôpitaux, dans les assureurs, Swiss Life, la Mutuelle Générale, Generali,
ils font confiance à Almeris, quoi. Ouais. Une activité également internationale dans un pays producteur de vin aussi d'ailleurs.
Vin de glace. Essentiellement. Donc nous commençons sur ces secteurs d'activité, on a été à l'origine de quelques innovations et souvent précurseurs. On a développé des savoir-faire qui commencent à être connus, à être utilisés à l'étranger, et notamment une des premières démarches au Canada, et la porte d'entrée pour nous des États-Unis, avec toujours une application des possibilités de traitement en réel de données, avec la possibilité d'étendre le champ d'activité au domaine de la santé.
Et aujourd'hui, donc, vous avez 218 collaborateurs. Quel est le profil de ces salariés ?
Essentiellement des ingénieurs, 70% à peu près. En croissance, on recrute tous les jours. Donc en croissance,
tous les jours Attention, il y en a 365 par an, en jour. Hein.
Depuis le mois d'avril, c'est tous les jours. On a une croissance de 40% à peu près par an, de façon régulière.
Et modeste avec tout ça. Les brevets, vous en déposez beaucoup ou pas ?
3-4 par an.
C'est pas mal déjà, quand même.
C'est assez significatif, parce que c'est des brevets sur des domaines très vastes. En fait, en général, des brevets d'usage qui concernent des activités à très grand volume.
Alors, je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM le samedi à 10h et le dimanche à 16h à Clermont sur 107.00. Et il paraît que quand vous étiez étudiant, vous avez créé une cave à vin pour financer la restauration d'un château Renaissance.
Alors, dans l'ordre, nous avions créé avec quelques amis une association pour restaurer un château qui est attribué à Catherine de Médicis lorsqu'elle était comtesse d'Auvergne.
Donc, dans la région de Clermont.
Dans la région à Salède, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, c'était un peu éloigné de Clermont. On a un problème de notoriété. Donc, on s'était dit que plutôt que faire venir les gens au château, on allait les faire venir dans une cave. Ce serait peut-être plus sympa et c'était plus facile. Et donc, on avait créé une cave qui était ouverte 3 jours par semaine, de 20h à plus d'heures. Le produit de la recette permettait de financer les travaux.
Et ça a
eu un grand succès, oui, d'ailleurs. On a un banquier à l'époque, le Crédit Lyonnais, qui avait le pouvoir de dire oui, qui nous avait financé le premier stock.
Et... De la région ?
Non, c'était beaucoup de Bourgogne,
ouais.
Un peu de Bordeaux. Puis quelques vins de Loire, ainsi de suite. Et en fait, on a eu la possibilité, au bout de 15 jours, de rembourser pratiquement le prêt qui nous a été consenti sur 3 ans, parce que le stock a tourné très vite. C'était un grand succès pendant pas mal d'années.
Non, c'est l'inverse, ce sont les banques françaises qui remboursent l'État. Et donc, avec tous ces sous, vous avez réussi à le restaurer, le château ?
Enfin, quelques tranches, restaurer la partie centrale. Et puis, c'est une aventure qui continue. Un nouveau président a pris le relais au début de cette année, Pierre Courtesserre.
Il est toujours dans la cave à vin, non, c'est
pas... Non, la cave a cessé son activité lorsque les étudiants sont rentrés dans la vie professionnelle.
Ouais.
Par contre, la restauration a perduré et continue encore.
Et à l'époque, vous vendiez également des huîtres et du fromage, on m'a dit.
Absolument. Alors le fromage, c'était assez facile d'en trouver sur place. Le vin, un peu plus difficile. Et les huîtres venaient d'un peu
Avec
plus
les loin. Huîtres, David Cobol, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin ? Plutôt du blanc sec, à l'exception des Anglais peut-être.
Oui, si on veut à tout prix boire un rouge, il faut éviter les rouges tanniques. Donc c'est un rouge de type Gamay, donc un Beaujolais ou un Gamay de Touraine. Ça peut fonctionner. Traditionnellement, c'est intéressant, dans la région bordelaise, on buvait des liquoreux, des sauternes. Mais c'est parce qu'on produisait beaucoup de liquoreux. C'est peut-être c'est ça qui faisait nécessité, faisait loi.
Bordeaux était anglais, non ?
Mais globalement, on préconise quand même des blancs secs, et pourquoi pas d'une région proche de la maritime, comme le Muscadet.
Philippe Aubrac ?
Ou alors dans le Bordelais, David, il y a une autre tradition, c'est de servir les huîtres avec des petites capinettes.
Aussi.
Donc des petites saucisses, et pour le coup, on peut servir du vin rouge.
Oui, c'est vrai.
On sert plutôt un rouge minéral, et celui qui par excellence s'impose, c'est le grave rouge.
Laurent Carada, je rappelle votre invité, le président d'Almeris. On va parler un peu des vins de votre région, justement les Côtes d'Auvergne. Alors, certains sont devenus aveugles, mais ça s'est amélioré ou pas ? Alors, dites-nous.
Vous me lancez sur un sujet difficile en tant qu'Auvergnat. Je voudrais bien utiliser un joker. Je dirais un peu au nord de l'Auvergne, dans la région de Saint-Pourçain, il y a des choses qui sont déjà depuis pas mal d'années assez remarquables. Il y a l'expérience de la cave Saint-Verny autour de Clermont-Ferrand, mais qui reste quand même un vin...
Sympathique.
À Chanturgui, il y a des choses bien.
Il faut déjà un niveau de chauvinisme assez avancé.
Jory Lefort,
historique. Je prie de poser une opinion différente. J'ai, lors d'un voyage pour voir un match avec votre excellente équipe de Montferrand...
Enfin, excellente. Bah, si, pas c'est forcément pour les Catalans de Perpignan.
Non, mais ça, on s'en fout, les Catalans. c'est quand même un grand champion. Mais il y a quelques années, je suis allé voir un match entre Stade Français et j'ai mangé... avec des copains dans un bistrot sur la place Jaude, bistrot à vin, et j'ai bu d'excellents vins de la région et j'étais vraiment agréablement surpris. Ça s'améliore beaucoup.
Boud fait des choses assez remarquables. Le problème est la régularité. Bien que ça s'améliore, on peut avoir
des variations.
D'un millésime sur l'autre, quelques variations.
Alors il paraît, Laurent Carada, que vous avez dégusté votre premier Armagnac ou découvert les délices de l'Armagnac dès l'âge de 14 ans, avec modération, j'espère.
Avec modération, j'avais un ami au collège dans ma classe, Jean-René Darroze, dont le père est assez connu et et à une cave remarquable. Et donc, pour fêter notre brevet, à l'époque, brevet des collèges, nous avait ouvert une bouteille exceptionnelle de 1804.
1804 à l'Armagnac, hein. Bon, alors, juste une petite goutte, parce que 14 ans, c'est quand même très jeune. Et en un titre de vin blanc, vous, un coup de cœur, paraît-il, pour les vins de Condrieu, m'a dit.
J'adore les Condrieu. Ouais. Tous les vins blancs de Bourgogne me plaisent, mais le Condrieu en Côte-du-Rhône est
pas mal non plus. Philippe Orbach, un commentaire peut-être sur le cépage de ce célèbre vin blanc.
Oui, c'est du Viognier, qui est un cépage extraordinaire, et qui produit sur le terroir plutôt granitique de Condrieu un goût unique. C'est des parfums qui évoque la violette, l'abricot et plus largement les fruits du verger. C'est un vin de séduction pure qui obtient son équilibre parfait, effectivement, dans l'appellation Condrieu.
Et pour être complet sur vous, il paraît que vous êtes le champion du monde des pâtes à la sarde. Qu'est-ce que c'est ça, les pâtes à la sarde?
Les gnocchetti à la campidanaise. C'est alors des petites saucisses aussi qui viennent relever la sauce tomate. Avec un fromage de brebis, pecorino.
C'est pimenté ou pas? C'est relevé?
Très légèrement.
Très légèrement. Et alors, comme type de vin, qu'est-ce que vous appréciez avec pâte à la sarde?
Terra Brune, quelque chose d'assez beau dans la cantine Sant'Adi, au sud de la Sardaigne. Et puis Villa des Chiese en blanc aussi, est pas mal vers les plages de Portopine.
Merci Laurent Carreda. Je rappelle que l'heureux président de la société Almeris, vous restez à nos côtés pour écouter la suite d'une vidéo BFM dans quelques instants. On va parler du magazine Vigneron et des côtes du Vivarais.
BFM Weekend. Lille accueille les Oscars des Bordeaux. BFM et Planète Bordeaux invitent tous les passionnés de vin de Bordeaux à élire les 5 Bordeaux rouges de l'année. Rejoignez un jury de dégustateurs amateurs pour une découverte des AOC Bordeaux coup de cœur millésime 2008 le jeudi 21 octobre au restaurant Au bout des doigts à 19h, 5 rue Saint-Joseph à Lille. Participation gratuite et réservation sur bfmradio.fr dans la rubrique Invino. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne et la région Aquitaine.
CAC 40, courbe des taux, chiffre d'affaires.
Chut, faites une pause avec Pierre et Vacances Premium.
Courchevel, Méripel, Chamonix, Les Arcs.
Pierre et Vacances Premium vous invite à rêver à vos prochaines vacances à la montagne. Écoutez,
sommets enneigés, soleil, paysage immaculé.
Imaginez-vous dans votre appartement chaleureux au pied des pistes, avec spa, piscine, soins, massage et de nombreux services. Réservez votre séjour sur pierre-et-vacances.com. Pierre et Vacances Premium, le très bien-être.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Retour à Paris chez Fauchon pour accueillir un nouvel invité, Jean Noyat, qui a lancé il y a quelques mois le magazine Vigneron. Alors il paraît que vous êtes un adepte de l'épicurisme, parce que vous avez lancé il y a quelques temps aussi 3 étoiles.
Ben, c'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai démarré en imaginant ce magazine 3 étoiles sur la route gastronomie. Il y a 8 ans maintenant, et on ne parle que des grands chefs du monde entier.
Et parce que ce n'est pas évident, quand vous n'avez pas le titre 3 étoiles, ça peut évoquer non, le cognac, les hôtels, les machins, pas forcément les grands chefs.
Oui, enfin, sauf que là, quand on met en couverture Paul Bocuse ou Yannick Aleno, en général, on voit
ce qu'on parle. Oui, ce ne sont pas des cuistots stagiaires, bien sûr, d'accord. Il marche bien toujours, 3 étoiles ?
Mais il existe depuis 8 ans, et apparemment, la satisfaction générale, avec un grand nombre d'abonnés, c'est en train de se développer à l'international.
Alors, on parle de votre dernier bébé, donc Vigneron, dont le deuxième numéro est en kiosque depuis samedi matin, là, ça y est. Hein. Et un petit mot peut-être sur le concept, parce que, désolé, mais des magazines sur le vin, il y en a pléthore en France. Qu'est-ce qu'il a de plus, votre magazine ?
Alors, ce n'est pas un magazine sur le vin.
Ah !
C'est un magazine sur les gens qui font le vin.
Ah !
Sur les vignerons, donc. Ça veut dire que, par exemple, dans ce numéro qui est paru ce matin, vous avez en couverture une dame extraordinaire qui est propriétaire de Château Margaux, qui s'appelle Corinne Menzelopoulos, que vous connaissez de nom, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on la voit pas souvent, et en tout cas pas dans la presse. Elle nous a reçus chez elle, elle a ouvert son château à nos journalistes, à nos photographes. On a fait un reportage extraordinaire, parce qu'évidemment, on a goûté son vin. Ça s'est passé en plein pendant les vendanges 2010, qui sont, je sais pas ce que nous dira Philippe Folbrack, mais le 2010 est peut-être une très belle année après le 2009.
Et il semble que 2008 et 2007.
Sûrement, les conditions étaient oui. Inintéressantes. C'est quand même un peu tôt pour tirer la conclusion.
Oui, c'est un peu tôt. Mais les conditions étaient réunies pour que ça soit sans doute un grand millésime. Et on a fait un reportage extraordinaire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître les gens.
L'envers de la bouteille, si je puis dire.
Pourquoi, comment ils font, d'où ça vient. Et parce qu'il y a un héritage, parce qu'ils ont aussi hérité d'un terroir, ils ont hérité de traditions, ils ont hérité de valeurs familiales. Ils vont les transmettre à leurs descendants, et c'est ça qui nous passionne.
Alors, c'est la radio, mais on peut aller en kiosque. C'est un très très beau magazine. C'est quoi? C'est la Rolls des magazines sur le vin?
Oh, écoutez, ça, on peut dire que ça peut être une Porsche ou une Ferrari aussi.
Chacun son truc. On est anglais à table, alors nous, on est plutôt Rolls, ça, pour l'instant.
Oui, c'est un magazine de prestige qui est vendu un peu plus cher que les autres parce que c'est
9 euros, c'est chiro quand même.
Oui, mais vous avez 140 pages de grands magazines, de grandes photos, de grands articles, de grandes signatures. Il y a des grands chroniqueurs, il y a beaucoup de choses de passionnantes à lire et à regarder.
Et l'objectif, c'est combien en termes de diffusion? Il y aura également les abonnements ou pas?
Oui, bien sûr, il y a des abonnements. On accepte tous les clients qui veulent bien nous lire. Oui.
Alors, vous m'avez confié qu'il y avait également des objectifs de développement à l'international, une déclinaison en langue anglaise, c'est possible, ça aussi?
C'est-à-dire que, si vous voulez, au sommaire de vignerons, nous avons non seulement les grands vignerons français, mais les vignerons qui marquent les esprits dans le monde entier. En Italie, en Espagne, partout, n'est-ce pas bon? Et en Allemagne et aux États-Unis. Donc, on va voyager dans le monde entier. Et donc, on va développer ce magazine, ce concept au niveau international, dans une édition internationale en langue anglaise, qui se prépare actuellement, et avec un site internet, un site vitrine et un site
en anglais aussi,
qui sera évidemment en anglais. Et parce que le marché est mondial aujourd'hui, en particulier des plus grands vins, qui sont donc créés, développés par les plus grands vignerons.
Tout à l'heure, en premier quart d'heure, on parlait des grands vins italiens, des grands vins espagnols, il y a des grands vins partout dans le monde. Quoi.
Absolument.
Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi en France? C'est d'arriver à une diffusion de combien d'exemplaires, ou de ventes en tout cas?
Actuellement, on est sur un train qu'on envisage sur une courbe de l'ordre de 20 000 de diffusion, payée, avec des abonnés, et vendus en kiosque, en France, et dans les différents territoires en langue française où nous sommes présents, Belgique, en Suisse, etc., dans les principales capitales européennes. Et puis, pour l'avenir, l'édition internationale, c'est difficile à dire, parce que la distribution en langue anglaise dans les territoires anglo-saxons, c'est un peu plus compliqué.
David Cobol, justement, au pays anglo-saxon, il y a beaucoup de magazines sur le vin qui existent, pas forcément aussi luxueux que ce beau magazine Vigneron.
Il y a en Angleterre ce que j'estime être le meilleur magazine sur le vin qui existe, qui s'appelle The World of Fine Wine, qui est extrêmement bien écrite, qui va au fond des sujets, qui ne se contente pas de faire des portraits des gens qui ont été 15 000 fois portraités déjà. Portrait turé,
teasé,
dont on a tiré le portrait 15 000 fois, et qui fait des vrais débats avec des dégustations faites sérieusement à l'aveugle par des experts. C'est de loin le meilleur magazine sur le vin au monde.
D'accord, et qui est vendu en Angleterre également aux
États-Unis.
Qui est
vendu en Angleterre et sur souscription partout.
Philippe Orbach, le forum, un petit mot peut-être sur ce magazine Vigneron, le numéro 2 qu'on a sous les yeux, là, qui est sorti donc ce matin en kiosque. Philippe,
c'est un joli magazine, c'est très luxueux, ça fait un peu people de l'univers du vin. Donc pour les gens qui sont intéressés par cet angle-là, un peu moins peut-être pour le côté pointu de la dégustation qu'évoquait David Cobold, il faut avouer que c'est un magazine qui donne envie. Les photos sont belles, on rentre dedans.
Il est très beau.
On rentre dans cette histoire-là. C'est un angle, effectivement, qui est un angle un peu moins peut-être pointu en termes de dégustation que certains concurrents, mais du coup, ça en fait un magazine à part.
Original. Vous avez également un débat avec deux stars, Jacques Cuzet et Alain Sandrin, dans ce numéro 2.
Ah oui, on les a réunis 30 ans après qu'ils aient démarré à l'époque pour imaginer, si j'ose dire, l'accord et l'association Mévin. Ils ont été les pionniers de ça. On les a réunis 30 ans après, ils nous ont raconté tout ce qui s'était passé.
Est-ce qu'ils ont beaucoup vieilli déjà? Parce que 30 ans après, ça fait un peu... Est-ce qu'ils sont bonifiés ou pas? Dites-nous.
Disons qu'ils étaient jeunes à l'époque, peut-être. Ouais. Ils ont 70 ans tous les deux, et ils sont en pleine forme. En pleine forme, parce que figurez-vous, mais vous le savez sûrement déjà, que les bons vins et la bonne chair, c'est plutôt bon pour la santé que le contraire.
Corinne Lefort, Jacques Cuiset, Alain Sandrin, deux monstres sacrés.
C'était mes maîtres, ce sont toujours mes maîtres. Je trouve qu'ils ont réussi à faire le lien entre, de façon beaucoup plus pointue, fine, entre la grande cuisine et les vins, ce qui n'était pas toujours évident, parce que les grands cuisiniers n'étaient pas formés au vin naturellement, il fallait des conditions particulières, et je crois que grâce à eux, il y a eu ce lien qui a été fait, c'est tout à fait exceptionnel.
En tout cas, un excellent débat, et pour terminer, Jean Noyac, vous à titre personnel, on m'a dit que c'était votre papa qui vous a initié au vin, quand vous étiez dans un collège jésuite,
oh là là,
à Sarlat.
Oui, j'étais à Sarlat, en Dordogne, dans un trou perdu, mais un collège de jésuites qui est devenu célèbre pour plein d'autres raisons, mais surtout où je ne pouvais pas voir mes parents très souvent. Et chaque fois que je voyais mon père, surtout pendant l'été, dès que j'ai eu l'âge de 15 ans, il m'emmenait tous les ans pendant mes vacances scolaires dans ces virées qu'il faisait, lui, pour constituer ses caves, lui, puisqu'il en avait deux, une à Paris et une dans la campagne dans le Quercy. Et donc j'allais avec lui visiter, voir les vignerons, goûter les vins et les acheter, parce que c'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui, manifestement, ou beaucoup moins qu'avant. À l'époque, c'était une tradition. On allait vraiment, on était reçus, on pouvait aller plus facilement, y compris chez les plus grands et les plus prestigieux. Et je ne dis pas forcément à la Romane des Conti ou à Aubryon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme ça que j'ai bu mes premiers vins, et ça a commencé par un Clos Vougeot. ça marque les esprits quand on a 15 ans, quoi.
Franchement, il y a pire dans la vie. Merci Jean Noyac. Je rappelle que vous êtes le fondateur, le propriétaire de ce magazine Vigneron, dont le deuxième numéro est en kiosque ce week-end. Une vidéo BFM, on retrouve maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, pour nous parler des côtes du Vivarais. Alors, cette bête-là, là, c'est dans quelle région, Philippe, les côtes
du Vivarais?
Eh bien,
on est exactement entre Rhône et Cévennes, dans les départements de l'Ardèche et du Gard, sud-Ardèche et nord du département du Gard. C'est une région qui produit du vin depuis très longtemps. La vallée du Rhône, bien entendu, est très connue, voisine. Le Languedoc, voisin par le sud, est également terre de vigne depuis très longtemps. On dit, parce que c'est toujours pareil, il y a 2000 ans, on n'était pas là les uns et les autres, et le magazine Miron n'existait pas encore.
Malheureusement,
une tribu gauloise qui s'appelait les Elviens cultivait déjà la vigne dans ce périmètre situé au confluent de ces gorges de l'Ardèche célèbres.
Corrie Lefort,
pour leur beauté.
Est-ce que vous parlez bien le Elvien?
Les Elviens, oui.
Est-ce
que vous parlez mais je vais m'améliorer. Mais après vous, mon cher David, j'essaierai de répondre. Alors ce petit vignoble qui n'était pas si petit que ça, à ses heures de gloire, à une époque où il fallait du vin, c'est ce qu'on appelait des vins un peu médecins, des vins qui renforçaient éventuellement les régions à proximité. Et c'est un vignoble qui a très bien vécu de cette très grosse production pendant très longtemps. On y faisait surtout, j'allais dire, une horrible piquette. Et d'ailleurs, Jean Ferrat l'a chanté abondamment. Et il disait d'ailleurs que cette horrible piquette faisait des centenaires à ne plus savoir qu'en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Donc ça veut dire que si on le supportait, effectivement, c'était une bonne façon de voir la vie aussi.
Il est bien votre sujet aujourd'hui, hein, c'est sympa, ça donne envie. Hein,
exactement. Oui. Alors, la transformation, on y arrive quand même. C'est les années 50 et les années 60. On a restructuré le vignoble. En 62, reconnaissance déjà importante à l'époque, VDQS, donc Vendée Limitée de Qualité Supérieure. Il y a eu ensuite une autre époque, c'est le plan Chirac, en 1972, qui a permis à la région, grâce aux aides communautaires notamment, de restructurer le vignoble. Et là, on a planté des cépages dits amélioratifs, on a arraché les hybrides, et on a remis Grenache, Syrah, Cinsault, par exemple, pour faire des rouges et des rosés intéressants, ou encore du Grenache blanc, de la Marsanne et de la Clairette pour faire également des blancs. Donc on a petit à petit restructuré, grâce notamment à une structure coopérative, et les vignerons ardéchois à Ruyoms sont un très bon exemple, et une trentaine de petites caves particulières dont je vous parlerai pour certaines tout à l'heure, qui ont également beaucoup, beaucoup œuvré pour cette qualité-là. Il en résulte aujourd'hui, depuis 1999, appellation d'origine contrôlée, donc pour eux, une très belle reconnaissance, 500 hectares de vignes qui produisent essentiellement du vin rouge pour 70%, 26% de rosé, 4% de vin blanc, avec les cépages que j'ai évoqués tout à l'heure, qui donnent pour les rouges des vins assez denses, structurés, qui sont à mi-chemin entre l'influence rhodanienne d'un côté, c'est-à-dire les belles syrahs du nord, parce qu'on est à 250 mètres d'altitude sur le plateau ardéchois, avec un terroir de type calcaire, et ces fameuses avennes, grottes que l'on admire et qui des fois sont malheureusement on l'a vu au début du mois d'octobre avec ce spéloque qui malheureusement est décédé, ça arrive, mais la région est truffée justement de ces avennes qui en font un charme aussi particulier. Également de chênes truffiers extraordinaires, de micocouliers centenaires, d'oliviers vraiment très très beaux. C'est vraiment un très très bel endroit.
Là, maintenant, vous donnez envie.
Et dans cette région, donc les rouges, je le disais tout à l'heure, ont ce côté très dense apporté par la Syrah, généreux par les grenaches, et gardent une certaine acidité, donc une certaine fraîcheur, parce qu'il fait froid en Ardèche, notamment la nuit à 250 mètres d'altitude, même l'été et en automne également, les nuits sont assez fraîches, donc le raisin garde son acidité naturelle et donne des bons résultats. Ce qui fait que les blancs, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a que 4%, parce que les blancs du terroir ardéchois, on l'a vu avec les grands Ardèches plus au nord, certes, de Louis Latour ou autres, sur des chardonnays et des Viognier, les résultats sont intéressants, et pour l'appellation Côte du Vivarais, les blancs sont aussi pas mal du tout.
Quelques vignerons, Philippe, pour terminer.
Oui, les caves des vignerons ardéchois, j'ai dit tout à l'heure, comme cave coopérative, il y a quelques domaines, le domaine Bel Air, le Clos des Senteurs, le domaine Bellevesée ou encore le domaine Galetti, qui est vraiment pour moi l'une des belles références.
Et alors, le prix de ces vins, vous savez que BFM, c'est la radio de l'écho, on parle un peu de sous.
Cave coopérative, on a des vins à partir de 5 euros. Et pour le domaine Galetti, il a une cuvée spéciale qui doit se vendre un peu plus de 10 euros. Ce sont des vrais vins de gibier, un peu des vins d'automne quand même pour les rouges, très intéressants sur des grillades. Et il y a une spécialité locale qui s'appelle la caillette ardéchoise, fait d'abatis et de fines herbes, qui se sert tiède. Et avec un rouge Vivarais de 5 ans d'âge, c'est une petite merveille.
Merci Philippe Forbach, on va marquer une courte pause pour les infos et ensuite cap sur l'appellation Irulegui et le duo Vigne et Châtaignier.
BFM Weekend. Chaque week-end, l'économie voit rouge sur BFM Radio.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet.
Une visite exceptionnelle. Le président chinois Hu Jintao sera à Paris la semaine prochaine. Entre la France et la Chine, les blessures du passé sont-elles effacées? La France qui va présider le G20 peut-elle convaincre la Chine de lâcher du lest sur sa monnaie? Décryptage avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, samedi à 18h et dimanche à 7h.
Chine Hebdo avec Mathieu Jolivet. Franchissez la grande muraille de l'écho sur BFM Radio.
Sur BIN.fr, pour les investisseurs actifs en bourse, les bonnes nouvelles arrivent par deux. Écoutez plutôt. Jusqu'au 1er décembre, vos frais de courtage au SRD vous coûteront 0 euros. Eh oui, 0 euros. Pour la seconde bonne nouvelle et les conditions de cette offre, rendez-vous vite sur BIN.fr. Le SRD est un service destiné aux investisseurs avertis. BIN.fr, pour ceux qui aiment l'action, en bourse.
Usineur, venez choisir votre prochaine machine-outil au Salon Usinage Expo. Rendez-vous les 2, 3, 4, 5 novembre à Usinage Expo Paris-Villepinte, conjointement au Mid-Est. Les principales marques de machines-outils d'usinage et d'outillage exposent leurs dernières technologies d'usinage. Réservez gratuitement votre badge sur www.usinageexpo.com.
BFM Weekend, 10h30. Infos, David Doba.
Une menace terroriste vient jouer les troubles faits en pleine campagne de mi-mandat aux États-Unis. Une menace qualifiée de crédible par le président américain qui a pris la parole dans la soirée. Après la découverte de deux colis suspects, le premier a été retrouvé dans un avion cargo de la société UPS en Grande-Bretagne. Le deuxième également dans un avion cargo de la même compagnie à Dubaï. Des colis en provenance du Yémen qui contenaient, semble-t-il, des explosifs et qui devaient être livrés à des responsables de synagogues à Chicago. Les sites religieux de la ville ont par conséquent été placé en état d'alerte. Pour Barack Obama, l'ombre d'Al-Qaïda au Yémen ne fait aucun doute. Une idée d'ailleurs partagée ce matin par la police de Dubaï qui affirme que le colis intercepté dans son pays porte l'empreinte d'Al-Qaïda. Par ailleurs, un avion de ligne qui se dirigeait également vers New York a été escorté hier par deux chasseurs pour des raisons de sécurité. Avion de la compagnie Emirates. Fin de la grève dans le secteur pétrolier en France. Toutes les raffineries sont désormais en service. Plus de 85% des stations devrait également être en service ce week-end. Et puis ça s'arrange également sur les rails puisque la SNCF annonce un trafic normal sur l'ensemble de ses réseaux. À noter qu'hier, Nicolas Sarkozy depuis Bruxelles a affirmé qu'il avait entendu les inquiétudes souvent légitimes exprimées par les Français sur le sujet. Le chef de l'État qui ajoute qu'il prendra des initiatives au moment venu pour y répondre. Philippe Corroy, le procureur de Nanterre, a abandonné hier l'intégralité des enquêtes préliminaires liées à l'affaire Bettencourt à trois juges d'instruction. Il répond ainsi à un souhait du procureur général de Versailles. Philippe de Villiers quittera demain ses fonctions ainsi que son mandat de président du Conseil général de Vendée, 22 ans exactement après y avoir été élu pour la première fois. C'est son ancien bras droit Bruno Rotello qui assurera l'intérim le temps que soient élus deux nouveaux conseillers généraux. Les députés ont terminé hier l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale 2011, projet marqué de bout en bout par des recherches d'économies pour tenter de contenir le déficit à 21,3 milliards d'euros. Aucun des quatre passagers qui se trouvaient à bord d'un hélicoptère français qui s'est écrasé jeudi dans l'Antarctique n'a survécu. C'est ce qu'affirment ce matin les services de secours australiens qui ont retrouvé la carcasse de l'appareil. En revanche, soulagement en Indonésie, 135 personnes qui étaient portées disparues depuis le passage du tsunami en début de semaine ont été retrouvées vivantes. Tsunami et éruption du volcan Merapi qui ont tout de même causé la mort de 450 personnes. Et puis football, 11e journée de championnat de France de Ligue 1 ce soir avec un choc à 21h entre Marseille et Rennes. À 10h32, on s'intéresse à présent à la presse de ce samedi, une presse qui accorde une large place au sommet européen. La rigueur en débat, titre le journal du dimanche. L'hebdomadaire rappelle que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont obtenu un accord pour réformer le pacte de stabilité. Merkel et Sarkozy relancent l'Europe, souligne de son côté le Figaro pour qui l'euro sort renforcé de ce sommet. Mais vos journaux reviennent également sur la politique. Pour le Parisien, Nicolas Sarkozy n'hésite plus que sur le nom de son futur Premier ministre alors que s'approche la date du remaniement ministériel. Entre François Fillon et Jean-Louis Borloo, difficile de choisir, un choix qui sera normalement effectué à son retour du G20 de Séoul. Et si les choses bougent au gouvernement, elles devraient également bouger à l'UMP, à en croire le JDD. Copé numéro 1, c'est presque fait, affirme le journal, alors que Xavier Bertrand devrait hériter d'un nouveau portefeuille ministériel. Dans le même temps, le maire de Meaux peaufine son plan de relance pour le parti du président. Il est 10h33. Et vous retrouvez jusqu'à 11h Alain Marty pour la suite d'Invino BFM.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
C'est reparti pour la bonne parole du vin et de la modération. Nous sommes toujours chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine, pour accueillir Jacques-Olivier Pesme, directeur associé de BEM, Bordeaux École de Management, qui nous parle d'un sujet qui est à peu près à 50 km de Bayeul aujourd'hui, Jacques-Olivier.
Oui, précisément à Saint-Étienne-de-Baïgorry, Baïgorry comme on dit là-bas, qui est une région d'Ancoche qui plonge dans l'Espagne navarraise. On trouve là-bas une cave coopérative des vins d'Irulegui qui a été créée en 1952.
Oui, c'est pas très loin parce qu'il y a un joueur de, foot, de rugby pardon, très connu hein, qui est dans le coin.
Imanol,
c'est ça
Imanol. Et David va nous prononcer son nom basque.
Arrénor d'Orki.
Ah oui, il parle
bien,
vraiment
bien,
le basque,
David.
Oui.
Il
parle le basque.
Absolument.
Il parle le basque.
Le basque.
Le basque est très proche de l'anglais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anglais dans le coin.
Absolument. C'est bien son pays d'ailleurs. Alors, la cave d'Irulegui est la cave et l'épicentre d'un terroir qui s'étend sur un peu plus de 200 hectares, qui avait rétréci à moins de 70 hectares au début des années 80. Et donc, on en propose désormais 220, un peu plus de 220 hectares. Elle réunit cette cave 40 viticulteurs sur les un peu plus de 50 que compte l'appellation. Et cette cave représente 140 hectares de superficie. La moyenne de domaine est assez petite, hein, moins de, inférieure à 4 hectares. Et comme cépage majoritaire, on trouve pour les rouges Tanat et grand et petit massin pour les blancs.
Et donc, quelques chiffres peut-être en termes de production et de qualité des vins blancs, rouges, rosés.
Alors, c'est une cave qui produit 5 à 6 000 hectolitres par an. Majoritairement des rouges, soit 60%, mais également des rosés, 30% et 10% de blanc. Une toute petite activité de vin de table, mais qui est en train de péricliter. Gamme des prix, vous le signalez tout à l'heure, qui nous intéresse, de 5 à 15 euros approximativement, pour un chiffre d'affaires de la cave inférieur à 3 millions d'euros, 2,8 millions précisément.
Et alors, pourquoi avoir choisi aujourd'hui l'exemple de cette PME, cette cave coopérative ?
Oui, c'est une petite cave, mais elle m'a semblé intéressante dans les clés du succès pour deux raisons. La première, c'est l'exemple type de cave coopérative de petite taille, mais qui s'en sort plutôt bien, ce qui n'est pas si fréquent pour des caves de ce type. Elle joue un axe stratégique à plein, c'est celui de l'identité et de la typicité qui leur réussit bien. Et la seconde, qui découle de la première raison, en fait, c'est tout simplement la cohérence, le lien très fort, quasi fusionnel qui existe entre la cave et son terroir, on le retrouve. Et cela pose d'ailleurs une question sur laquelle on reviendra en fin de chronique peut-être. Dans ce type d'appellation très marquée, très connotée, peut-on exister à côté de la cave coopérative ? Y a-t-il une vie
bonne question. Les facteurs clés de succès, Jacques-Olivier ?
Facteur clé de succès, comment cela marche-t-il ? Un, ce que j'évoquais, une rencontre identité-produit et une rencontre identité-pays. L'identité, j'en ai déjà parlé ici sur ce plateau, dont un synonyme en marketing serait le positionnement, est un vrai avantage compétitif. Si vous pouvez jouer l'identité à fond, alors faites-le. Elle permet de différencier naturellement le produit et de le sortir de l'anonymat. Dans le vin, c'est très important. Deuxième raison du succès importante, l'exploitation cohérente de ce filon identitaire. Un mix, un marketing mix simple, mais tout à fait réaliste. Un travail, j'en ai parlé, Philippe ou David pourraient le confirmer sur la typicité
du produit. Corinne aussi d'ailleurs.
Corinne, pardon.
Bien sûr.
Des vins charpentés, charnus, des vins de là-bas, du Pays Basque.
Des vins d'hommes comme Imanol, machin.
Par exemple.
Ouais.
Une distribution pool locale, donc on n'est pas sur du pouce, autrement dit on distribue, on propose le vin à la vente sur place. Il faut venir dans le Pays Basque pour trouver ces vins facilement, c'est important. Mais par contre, on est omniprésent localement, on les trouve quasiment partout. Une cave qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui reste le pôle d'attraction de la région en la matière. Tous les gens qui se baladent et qui vont voir des vignerons s'arrêtent à un moment ou un autre à la cave. Elle fait partie, j'allais dire, du paysage comme outil majeur de promotion. Un étiquetage qui souligne l'identité, mais sans tomber dans le folklorisme. Et un prix raisonnable, mais pas bon marché. C'est volontaire. Ce n'est pas l'argument principal commercial. Et c'est important. Et puis la troisième raison, le maillage commercial territoire. Tous les circuits de distribution là-bas sont sollicités et possède des produits irréguliers, c'est absolument obligatoire.
Corinne Lefort ?
Oui, et puis ils ont quelque chose qui est pratiquement unique en France. J'adore cette cave parce que elle participe à un projet de patrimoine régional et surtout de cette appellation. En fait, tous les producteurs qui mettent leur raisin à la cave doivent signer une charte, ça c'est très important, comme quoi ils ne doivent pas dépasser un certain nombre d'hectares et ils doivent avoir sur leur terroir certaines spécificités du coin. C'est-à-dire s'ils ont des animaux, s'ils produisent des fruits, tout ça, ça doit être particulièrement encadré. Et c'est tout un ensemble, c'est-à-dire pas uniquement le vin, mais c'est aussi tous les produits associés.
En quoi c'est intéressant de savoir qu'on produit
produit des vaches à côté de la vigne. En quoi c'est un cahier des charges précis?
Parce que d'après ça, il y a tout un travail sur l'environnement, sur le traitement dans la nature, sur la protection, sur tout ce qui est lié finalement à préserver ces terroirs qui sont quand même...
Donc il y a un éco-cahier des charges.
Absolument.
Jacques-Olivier Pesme.
Oui, et ça fait écho également à un autre aspect que je voulais signaler dans les leçons à tirer de cet exemple.
Oui.
C'est qu'ils ont su tirer profit du potentiel touristique existant à proximité. Ce qui n'est pas toujours vrai de beaucoup d'appellations qui ont un potentiel touristique, souvent balnéaire, voilà. Et qui ont du mal à capter justement ce potentiel touristique. Là, ici, ils le font très bien et cela marche. Ils ont travaillé sur l'identité. Souvent, c'est ce que j'évoquais, le touriste choisit une région. Il faut que les appellations qui sont sur un potentiel touristique sachent valoriser et conforter le touriste dans les raisons de son choix pour cette région. Une distribution intense en période touristique et l'offre de découverte doit être organisée, s'articuler autour d'un point structurant. Ça, j'insiste, c'est toujours très important. Faire venir les touristes et capter le potentiel touristique est important, mais on doit un moment ou un autre, autour des domaines, des vignerons, les attirer sur un point focal d'attention. Ici, c'est la cave et ça marche très bien.
Et est-ce qu'on peut imaginer des coopérateurs qui quittent la coopération justement pour s'établir à leur propre compte, devenir des vignerons indépendants? Ah, il y a un petit bruit d'enfin. Je rappelle que nous ne sommes pas dans le studio de BFM, mais chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine, Jacques-Olivier.
Oui, alors c'est justement une question que je me suis posée. Je veux dire, la cave est tellement prégnante, y a-t-il une vie à côté de la cave pour d'autres viticulteurs? Et oui, le meilleur exemple qui m'a été donné a été donné par une dame qui s'appelle Marianne Hulot, qui est une femme vigneronne qui s'occupe du domaine Etchegaraya sur 7 hectares et demi. C'est très intéressant. Elle fait 3 cuvées de rouge, une de rosé, qui sont de très belles factures et qu'elle écoule chaque année sans effort, entre guillemets, pour moitié dans les foires au vin et l'autre moitié à l'export. Autrement dit, elle fait exactement le contraire de ce que la cave fait. Elle exporte, elle ne met pas de basque sur l'étiquette. Elle a d'ailleurs plutôt des étiquettes assez folkloriques, ce que la cave me disait qu'ils ne veulent pas faire. Et tout ça, ça marche. Ce qui me fait dire, en point de conclusion, comme quoi qu'il n'y a jamais et heureusement qu'une seule et bonne façon de procéder.
Merci Jacques-Olivier Pesme, milieu de BFM. On retrouve Corinne Lefort, qui est journaliste à la Revue de France, spécialiste de tourisme dans les vignobles et historienne du vin, pour nous parler du duo vigne et châtaignier. Ça va les champignons, tout va bien?
Ça va, j'ai pas trop fumé, non, ça va, j'ai juste...
Absolument,
je trouve que notre ami a tout à fait mis déjà les prémices de mon papier, là. Il a tout à fait été dans la ligne de ce que je comptais effectivement présenter, parce que le terroir de la vigne et du châtaignier, bien sûr, il y a l'Ardèche, mais ils ont beaucoup de points en commun. Ils ont une histoire, ils ont certains terroirs, on voit l'Ardèche. Il y a une concurrence mondiale, une saisonnalité, une cuisine et beaucoup de fêtes. Et il y a un attachement à la terre par les producteurs qui est aussi très passionnel comme pour le vin. Alors d'abord, le châtaignier, c'est un grand arbre qui peut atteindre jusqu'à 35 mètres.
Vous saviez ça, David Cobold? 35
oui,
mètres.
Oui, monsieur.
Bon. Et par contre, il peut être âgé de 1000 ans. Ça, je ne le savais personnellement pas avant de préparer ce papier. Et sa croissance est juvénile, est très rapide et sa souche rejette fortement son écorce. Alors d'abord, c'est gris, c'est lisse, devient brun noirâtre et fissure avec le temps. Autre particularité commune avec la vigne, c'est qu'il est souvent malade. Il l'a été pendant le 19e siècle, au même moment que la vigne, c'est-à-dire qu'il a développé ce qu'on appelle la maladie de l'encre, qui est un champignon qui atteint par les racines, comme pour la vigne, le phylloxéra, et qui a développé des maladies au niveau des extrémités des branches. C'est également une essence qui a besoin de pluie, mais pas trop, qui ne supporte pas la sécheresse, et bien sûr, est sensible au gel. Il y a également un terroir qui est favorable à cette plantation de châtaigneraies qui sont absolument en période d'automne sous les bois, se promener, il y a les odeurs, les feuilles mortes, c'est absolument fantastique.
Main dans la main, enfin, c'est
et
très
romantique. Au moment des vendanges, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas fini les vendanges encore, notamment toute une partie de la Suisse, j'étais dans la région des Lavaux, où il y a effectivement des châtaigneraies dans le coin également, du côté de Fuilly, en Italie du Nord, dans la région du Piémont, et puis en France, dans les coteaux de l'Ardèche, justement, il y a encore des vignes qui ne sont pas vendangées. Et là, vous avez effectivement des châtaigneraies superbes. Alors, aujourd'hui, la consommation de châtaignes fraîches est surtout ponctuelle et saisonnière en France.
Alors, parlons-en, justement.
Voilà. Alors, ça a été longtemps l'arbre à pain. L'arbre à pain parce que la population, notamment de Corse, du Portugal, du Massif armoricain, de l'Italie du Nord et de Limousin, par exemple, avaient besoin de ça pour se nourrir, on faisait de la farine. Mais au 19e siècle, comme je l'indiquais, il y a eu des maladies et on a fait venir des variétés d'Asie mineure, probablement de Turquie, mais aussi d'Iran. et d'autres régions. Donc aujourd'hui, on a des variétés, comme pour la vigne, on a fait des greffages, comme c'était la même habitude, et on a quelques essences, comme le combal, la bourrue, la montagne. Alors vous allez peut-être me demander, en tout cas je l'espère, châtaigne ou marron,
comment... Ah oui, la grande différence.
Quand les petits-enfants sont dans les cours de récréation, qui ramassent, qui veulent les manger, comment fait-on pour savoir si c'est à consommer ou au contraire simplement acheter sur les camarades de classe? Eh bien,
Corinne, si je peux me permettre, en Angleterre, nous avons une distinction qui n'est pas une distinction de mots. Ici, on parle de châtaigne et de marron. Mm. Et on utilise le même racine, c'est chestnut pour les
chestnut,
deux.
Ouais.
Mais pour le marron, c'est horse chestnut, donc celui qu'on donne aux chevaux.
Et oui, parce qu'il est plus gros.
Il est plus gros et puis il n'est pas comestible par l'humain.
Absolument, parce que c'est un gros fruit qui, effectivement, a une petite pellicule qui est très amère et qui ne se consomme pas. Alors que, je dirais, tout ce qui est lié à la châtaigne qui s'en consomme, c'est des petits fruits, plusieurs, et qui sont effectivement faciles à cuire ou à percer et qui sont sans cette amertume. Alors, les deux fruits proviennent bien du même arbre, de la châtaigne, du domestiqué. Mais il faut savoir qu'en France, on en consomme une certaine quantité. Exactement, le chiffre est de 20 000 tonnes et que la plupart des châtaigniers, eh bien, en France, ne suffisent pas. Donc, on en importe de Chine, on va en importer d'Italie, de Turquie. La France n'est que le 11e producteur. Et la concurrence mondiale est là, comme pour la vigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette tradition qui nous faisait manger des châtaignes l'hiver, eh bien, n'est plus assurée par le marché français, qui est surtout sur la conserverie, les confitures, les grillés qu'on a à la sortie des grands magasins. Et donc la châtaignerie française est en perte de production parce qu'il y a eu un exode important, et que les gens ne se sont pas intéressés. Alors les grandes régions où il y a la vigne et où il y a effectivement la châtaigne, eh bien on va les retrouver dans l'Ardèche, en Corse, en Lozère. Et là je vais juste parler d'une petite fête qui a lieu en Corse, à Boccagnano, à côté d'Ajaccio.
À ne pas louper.
Et là, vous allez avoir un week-end formidable avec les vieux métiers et des vins corses, bien entendu.
Merci, Corinne Lefort. Vous avez maintenant 2 minutes pour aller ouvrir une châtaigne grillée, par exemple, puis ensuite cap sur l'actualité des vignobles, et puis le Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi.
BFM Weekend. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand.
Ce week-end, Philippe, nous recevons Jean-Pierre Pogam, le président de Sealand.
Une société informatique spécialisée dans la grande distribution.
Nous accueillerons Thomas Gresset, fondateur de Team Entrepreneur Alsace. On accueillera Alain Bozetti, le président de Planète Micro Entreprise. Et Nathan Cohen, fondateur du site popmylook.com. Rendez-vous samedi à 19h et dimanche à 13h.
L'entreprise BFM, tous les week-ends, l'émission qui donne envie d'entreprendre. Lille accueille les Oscars des Bordeaux. BFM et Planète Bordeaux invitent tous les passionnés de vin de Bordeaux à élire les 5 Bordeaux rouges de l'année. Rejoignez un jury de dégustateurs amateurs pour une découverte des AOC Bordeaux coup de cœur millésime 2008 le jeudi 21 octobre au restaurant Au bout des doigts à 19h, 5 rue Saint-Joseph à Lille. Participation gratuite et réservation sur bfmradio.fr dans la rubrique Invino. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Campagne financée avec le soutien de l'Union européenne et la région Aquitaine.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Retour chez Fauchon, dans la cave Fauchon précisément, située à Paris, place de la Madeleine, pour retrouver le cofondateur de Chevino, du site Chevino, David Cobol, qui nous propose une petite promenade sympa en Grèce.
Oui, j'aurais pu vous proposer une petite danse. Vous connaissez le Sirteki, la célèbre danse.
Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Philippe Forbach habillé en costume local grec?
Non, mais je pense que ça lui irait très bien. Il a une tête de patriarche grec.
Avec les chaussures à pompons.
Il a une tête de pop.
Le métèque. Je ne me suis jamais habillé comme ça, rassurez-vous.
Alors David,
non,
ce n'est pas...
Je vais bien vous voir comme ça. Alors, je vais vous parler non pas du Sirteki, mais de la Sirtiko, qui, à la différence du Xenomavro dont j'ai parlé là, tout récemment, cépage rouge, la Sirtiko est un cépage blanc, un très grand cépage blanc, qui a vraisemblablement ses origines sur les îles de Cyclades, et particulièrement l'île de Santorin, mais aussi les autres îles de Cyclades où on en trouve. À Santorin, il constitue 70% de l'encépagement. Je rappelle, pour les amateurs de dits d'histoire, auditeurs d'Invino BFM, que c'était l'explosion d'un volcan sur l'île de Santorin qui était vraisemblablement à l'origine de la fin de la civilisation crétoise. vers 1500 ans avant Jésus-Christ, hein, grande civilisation qui prédatait la civilisation grecque proprement dite. Santorin est donc un sol volcanique et l'Acertico survit dans des conditions extrêmement dures où on a à la fois l'humidité de la mer méditerranéenne qui l'entoure, des conditions de vent extrêmes, beaucoup de chaleur et un sol très très peu de matière organique et l'Acertico produit des vins magnifiques. Avec beaucoup, beaucoup de fraîcheur, on produit des vins secs majoritairement, on produit aussi des vins liquoreux avec un séchage sur terre, comme dans beaucoup d'îles de la Méditerranée, on coupe le raisin, on le laisse sécher sur le sol qui est très, très chaud. Et ça fait des vins liquoreux extraordinaires qui gardent aussi une très belle acidité. Alors, l'Acertico, je pense qu'en Grèce, j'ai pas vraiment eu des chiffres fiables, mais à peu près 1500 hectares aujourd'hui, dont une bonne partie dans les Cyclades. Mais du coup, à cause de cette réussite des vins de Santorin, on en a planté autour d'Athènes et on en a planté aussi dans le nord-est du pays, autour de Aldadiki, où il est souvent utilisé non pas seul, mais assemblé soit à la Malagousia, soit à des cépages qu'on connaît bien en France, le Sauvignon blanc et le Sémillon. Donc c'est un cépage qui a énormément de potentiel, un très très grand cépage blanc, malheureusement pas très connu, mais on peut en trouver en France. Je vous conseille d'essayer de l'acheter si vous en trouvez. C'est pas nécessairement bon marché, parce que les conditions de production sont souvent, mais vraiment à découvrir.
Merci David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz de Vino BFM, c'est à vous Corinne Lefort.
La semaine dernière, la question était quel est le nom du dernier livre de Philippe Forbrach ? Réponse A, comment faire sa cave ? Réponse B, comment faire son lit ? Réponse C, comment faire la vaisselle ?
Alors Philippe Forbrach, vous faites la vaisselle, vous ?
Il est très bon en vaisselle.
Donc la réponse, Corinne Fort,
était bien évidemment la réponse A, comment faire sa cave.
Alors cette semaine, une nouvelle question ?
Alors cette semaine, oui, une nouvelle question, je crois que notre cher ami a été très clair pour préciser la région viticole. Quelle région, dans quelle région viticole est située là aussi, Côte du Vivarais ? Il fallait être très attentif. Réponse A, dans la vallée du Rhône. Réponse B, dans la Napa Valley. Réponse C, dans la vallée de Dana. Voilà, et pour répondre et gagner un exemplaire du guide des grands amateurs de vin 2011, rendez-vous dès maintenant sur www.bfmradio.fr dans la rubrique « Service ». Et je concours. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Corinne Lefort, David Cobold, on revient vers vous et on parle d'une super soirée caviar et grand cru. C'est la fête.
C'est la fête. Je vous rappelle que le mercredi 17 novembre, vous allez pouvoir au restaurant Petrosian, le grand spécialiste du caviar iranien, arménien, goûter des magnifiques vins, Laurent Perrier Ultra Brut, Grand Siècle de Laurent Perrier, un Gevrey Chambertin, Domaine des Tilleuls 98, Carbonieux, Pessac-Léognan et Château Yquem, et un NSC XO Cognac et le taxi pour suivre, c'est très bien.
Combien ça coûte, David ?
245€ hors taxe par personne, seulement 8 places, il faut se dépêcher maintenant, il reste peu de places, 01 42 89 14 14.
Merci David, on quitte Paris pour Toulouse avec une soirée qui s'annonce très intéressante le mardi
au
16
Toulouse,
novembre.
Le 16 novembre au salon du Jardin de l'Opéra, le magnifique établissement sur Place de la Capitole à Toulouse. Le Wine and Business Club se réunira pour débattre de différents sujets d'ordre économique, pour goûter de bons vins, pour goûter une cuisine superbe et pour harmoniser tout ça, des gens extrêmement intéressants.
Un site internet peut-être pour prendre enseignement, David ?
Oui, winebusinessclub.com, c'est simple.
David, c'est InVino BFM à la radio, vous l'écoutez en ce moment, mais ça sera le week-end prochain, comme chaque week-end en fait sur BFM TV, avec de multiples diffusions le samedi et le dimanche.
Et vous savez quel est le sujet ?
Et non, David,
et
justement.
Non, mais je vais vous dévoiler le sujet. Alors, c'est une toute petite appellation, une des plus petites, je crois qu'il y a une demi-douzaine de producteurs, guère plus, qui se trouve à côté du Mont-Saint-Victoire, près d'Aix-en-Provence. Moi, je serais plutôt partisan, comme je suis pour l'abolition de beaucoup d'appellations contrôlées, je serais pour amalgamer ça dans les Côtes d'Aix. Mais bon, évidemment, les gens de Palette, parce qu'il s'agit de Palette, ne seraient pas d'accord avec ça, parce qu'ils tiennent à leur identité. C'est un peu le village gaulois. Mais bon, Palette, c'est magnifique. Il y a de très, très jolis vins, notamment Château Simone, qui est un très grand vin de Palette. Et Philippe Forbrach va vous parler de cette appellation et de comment l'accommoder à table.
Il sera associé à Frédéric Anton, le chef Trois Macarons du Précatelan à Paris. Pour connaître les horaires de diffusion, www.bfmtv.fr. Enfin, on quitte nos frontières, on arrive en Suisse pour une soirée à Genève au Beau Rivage qui s'annonce exceptionnelle.
Alors,
David Cobold.
Exceptionnelle dans tous les sens du terme, puisqu'il y a deux châteaux voisins qui appartiennent au même propriétaire dans l'appellation Pessac-Léognan, à Pessac très exactement, inclus dans la zone périurbaine de Bordeaux. D'ailleurs, c'est entouré de murs de bâtiments. Château Aubryan et son voisin d'en face, Château La Mission Aubryon, deux très très grands vins. Les uns peuvent préférer l'un, il y a toujours des défenseurs de l'un par rapport à l'autre, mais c'est deux vins complémentaires. Et là, vous allez pouvoir assister à quelque chose d'extraordinaire, un double vertical.
Donc c'est un dîner grand cru en fait.
Dîner grand cru, mais vous allez passer de 90, qui est le millésime le plus jeune servi, à 29, le plus ancien. Et chaque fois, les deux domaines, 90, 82, 78, 47 et 29. Donc c'est totalement exceptionnel. Je rappelle que le Beau Rivage achète en primeur depuis des générations, donc on les stocke de ces très grands vins.
De Suisse.
Donc c'est absolument incroyable. Alors évidemment, ce n'est pas donné. Donc il va vous en coûter pour le dîner. Et le dîner va être à la hauteur, j'imagine, de ces très grands vins.
Avec le chef étoilé qui est excellent d'ailleurs du
Beau Rivage. 5150 francs suisses par personne. Et je vous conseille de prendre une chambre après. Donc ça ne vous coûtera que 5750 avec la chambre.
Voilà, donc ça va louper. La date peut-être, David Cobold ?
La date est le samedi 4 décembre 2010.
Voilà, grand événement qui va se dérouler donc à Genève au Beau Rivage. On arrive sur un autre sujet, on va dire, il faut faire attention à ce sujet. Il concerne donc les femmes et l'alcool, les femmes d'ailleurs enceintes.
Oui, je précise qu'il s'agit pour l'instant, selon l'étude, de femmes anglaises. Donc on ne sait pas si cette étude est transposable à toutes les femmes du monde, et notamment les femmes françaises. Mon attention a été attirée par l'excellent confrère Vitisphère, qui est un site d'information sur le vin, par un compte-rendu d'une étude publiée dans la très sérieuse revue britannique, le Journal of Epidemiology and Community Health.
Vous nous le répétez, Philippe Forbach ?
Oui, mais on a été en train de
écraser
les mouches.
On va vous laisser. Petit...
Oui, il y a des petits volatiles aujourd'hui.
Oui, il y a des volatiles. Oui, on va en parler week-end. Après. Oui, c'est les mouches de, voilà, du vin. Alors, cette étude portant sur 11 500 enfants nés entre le millésime 2000 et le millésime 2002.
Que donc, des Anglais, hein.
Apparemment que des Anglais, bon. En tout cas des gens vivant en Grande-Bretagne, on va le dire. Et ils ont étudié, ils ont divisé ces groupes en deux, les femmes pendant leur grossesse qui ne consommaient absolument pas une goutte d'alcool, et les femmes qui consommaient d'une manière extrêmement modérée un peu d'alcool pendant la grossesse. Et on parle de 1 à 2 unités d'alcool par semaine. Si je traduis ça en vin, ça veut dire 1 ou 2 verres de 12 centilitres par semaine. Pas plus, pas plus. L'étude portée, puisque ce qui est dit ailleurs, et notamment en France, c'est que toute consommation d'alcool peut porter atteinte à l'état du cerveau de l'enfant. En diminuant la capacité intellectuelle de l'enfant et son comportement. Or, il semblerait, d'après cette étude, et encore une fois pour les femmes anglaises, les enfants anglais, ils n'ont accusé aucun retard ni cognitif, ni difficulté comportementale supplémentaire par rapport aux enfants nés de mères totalement abstinentes. Côté comportemental, les enfants nés de consommatrices modérées présentaient même moins de difficultés générales et d'effets d'hyperactivité que ceux nés de mères abstinentes. Côté faculté cognitive, garçons comme filles, nés de consommatrices modérées, une fois de plus, ont obtenu de meilleurs scores que leurs homologues nés de mères abstinentes. Et la différence statistique étant particulièrement marquée chez les garçons en vocabulaire et en détection visuelle de similarité. Donc c'était vraiment des tests poussés. Et je trouve que ça jette quand même un petit ombre de doute sur le sacro-saint principe de précaution absolue où on interdit
l'abstinence totale.
La modération, évidemment, et la grande modération. On rappelle qu'autrefois, on prescrivait une célèbre marque de bière très foncée d'origine irlandaise pour les femmes qui allaitaient.
Toujours pour les Anglais.
Toujours uniquement pour les Anglais et les Irlandaises.
Les Françaises aussi.
Et un verre de champagne pour les femmes et un verre de vin pour le contenu en fer ou d'autres substances. Et je trouve que peut-être être triste est sûrement plus dangereux pour un enfant dans le ventre que d'être joyeux et détendu.
Après tout, David, abstinence pendant 9 mois, puis après une bonne bouteille de champagne pour fêter l'arrivée du chérubin.
Non,
c'est
mais
pas mal
un
aussi.
Verre par semaine, je ne vois pas en quoi ça peut être dangereux.
Alors on change de sujet, on quitte l'Angleterre pour Agen avec une belle équipe de rugby d'ailleurs présidée par Alain Tingot.
L'équipe de rugby qui a des difficultés, mais qui est aidée sur le terrain et les spectateurs avec une fabuleuse restaurant juste à côté du stade. Et j'aimerais bien qu'il en soit autant de tous les stades de rugby en France et à Navarre. Alors ça s'appelle la table d'Armandie, puisque le stade de SUA, Sportif Union à Genèse, s'appelle Armandie. Donc on n'est pas dans le cœur d'Agen, on est dans la banlieue, on est proche de la zone industrielle de Bouët. C'est pas une zone très glorieuse, mais là, ils ont réussi, c'est le club d'Agen qui est à l'origine de ce projet, à attirer un très bon chef, Michel Dussault, qui était autrefois à Moissac, table de Napoléon, près du pont de Napoléon, et qui se trouve être un très très grand amateur de vin. Et ça se voit sur sa carte de vin. Puisque vous avez, c'est pas une énorme carte, mais il y a plus de 100 références. Les prix sont très doux, ça va de 18 euros à 100 euros pour la bouteille le plus chère, qui est un Sauternes Malmaison, il y a très peu. Il y a beaucoup de vins à moins de 30 euros. Il y a 12 vins au verre servis tous les jours. Il fait un repas à midi extraordinaire pour 18 euros. 18 euros, tenez-vous bien.
C'est pas cher.
Et vous buvez des vins à 3 3 euros le verre, avec d'excellents vins. Évidemment, une grande priorité pour les vins du Sud-Ouest, mais pas que le Sud-Ouest, il y a toute la France est représentée. Et je vous conseille de passer. Si vous passez par Agen pour un match de rugby ou d'autres choses, allez-y, la Table de Normandie à Agen, 05 53 96 15 15.
Merci David Cobold. Ce numéro de Ndilo BFM est maintenant terminé. Je vous rappelle que la possibilité de venir participer aux enregistrements de l'émission qui se déroule le mercredi chez Fauchon à Paris entre 16h et 19h. Pour tout renseignement, une seule adresse, www.bfmradio.fr. On se retrouve comme d'habitude samedi à 10h et dimanche à 16h. D'ici là, continuez à garder le sourire à l'écoute de BFM et surtout respectez la plus grande des modérations.